Isabelle Huppert m'était devenue précieuse après une longue conversation avec Claude Chabrol. « Tu dois l'accueillir, me disait-il. C'est la comédienne la plus exigeante, la plus douée. Tu verras, elle est moins en désordre que moi. » Il avait raison, il n'est pas de femme plus instruite de la situation de l'art dans le monde. Mais le temps passe, c'est en 1981, la dame demeure.
Isabelle Huppert, comédienne, 25 ans, bachelière et diplômée, ou du moins voulait être diplômée de l'École nationale des langues orientales. Vous avez fait du russe. Vous êtes diplômée d'abord, j'ai dit qui voulait.
Non, pas vraiment. Je suis presque, mais je ne suis pas complètement.
Et pourquoi le russe?
Pourquoi pas?
Oui, mais non, c'est parce qu'on a des idées, si on vraiment va du côté de cette langue.
Non, je n'avais pas spécialement d'idées. J'avais fait russe en seconde langue au lycée, puis après j'ai continué à la fac. Mais j'en ai fait que 2 ans. J'ai fait 2 ans de langue orientale et jamais mon diplôme.
Mais il y avait peut-être une petite idée dans la tête quand vous aviez peut-être une carrière à laquelle vous souhaitiez vous consacrer, non?
Non, non, non. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à cet âge-là. Alors j'ai choisi le russe comme ça. Si c'était à refaire, je ne pense pas que je choisirais le russe d'ailleurs. Je choisirais peut-être autre chose.
Alors je regarde un peu la famille Huppert, toutes ces sœurs Huppert. Non, je pense à votre père. Votre père est industriel.
Oui.
Je me demande s'il s'attendait à une telle explosion artistique familiale. C'est cela qui est intéressant.
Bah, il faudrait lui demander.
Vous avez dû en parler. Vous avez dû en parler tous les deux.
Pas tellement, non. Je ne crois pas qu'il s'y attendait tellement, non. Rien de notre enfance le laissait présager, en tous les cas.
Mais vous avez toutes fait des études.
Mes sœurs et mon frère, parce que j'ai un frère aussi, ont tous fait, oui, des études assez brillantes. Et moi, j'ai voulu me singulariser par une autre voie, je crois, assez rapidement. Je ne me sentais pas tellement faite pour les études.
Alors, vous n'avez peut-être pas fait des études aussi brillantes que vos sœurs, mais vous avez fait quand même des études. Et votre père devait vous dire, faites ce que vous voulez, mes chéris, mais après, mais avant plutôt, le bac ou un commencement de vie.
Le baccalauréat, mais moi, j'ai subi aucune pression de sa part. J'ai commencé très vite à suivre des cours de théâtre. Quand j'étais en philo, j'ai commencé déjà à suivre les cours du Conservatoire de Versailles. Et puis après, j'ai continué d'autres cours à Paris et très vite, j'ai fait ce que j'ai voulu, sans savoir d'ailleurs où ça me mènerait. Et au début, c'était pas un choix très conscient. Je savais pas vraiment si j'avais envie d'être comédienne. C'est par la suite que j'ai découvert que je le voulais vraiment. Mais c'était quelque chose de très diffus au commencement. C'était pas formulé du tout.
Vous étiez la dernière de la famille.
J'étais la dernière, oui.
Vous êtes passée presque la première. Ça n'est pas pour désavantager les autres. Et je me demande si vous en parlez entre vous.
Pas beaucoup, non. Non, non.
Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de jalousie chez les autres? Même inconsciente?
Non, je pense pas. Mais je pense que quand on se retrouve entre nous, c'est pas des choses dont on parle. Quand on se retrouve en famille, on parle pas trop de ce qu'on fait à l'extérieur. On est dans un climat familial et on essaie de pas trop faire intervenir ces choses-là.
Et c'est cette dimension qui, je crois, est intéressante parce que, et on l'a beaucoup écrit, hein. Vous avez peut-être eu de la chance, mais moi je ne crois pas seulement à la chance. Je crois qu'il n'y a pas seulement le hasard, il y a aussi du travail, et puis il faut le dire, il faut du talent. Alors vous êtes anti-vamp, j'ai vu tous les mots, et c'est vrai. Vous êtes anti-star, et c'est vrai, on pourrait peut-être penser que c'est le sens des comédiennes d'aujourd'hui. Vous êtes discrète, mais terriblement présente, et on le voit dans tous les films. Alors je me demande si ça n'est pas une nouvelle orientation. Chaque saison a inventé ses comédiennes, et peut-être que les comédiennes d'aujourd'hui peuvent se réunir sous votre bannière.
Oui, peut-être que chaque époque a ses comédiennes, et que les comédiennes de maintenant ressemblent à notre époque, mais je trouve que c'est des formules un petit peu hâtives, anti-star, anti-vamp. Moi, quelquefois, ça ne me fait pas très plaisir.
Je croyais au contraire.
J'aimerais bien quelquefois être vamp et être star. Et puis, je crois que même les stars, souvent, quand on les rencontre comme ça dans la vie, elles n'ont pas forcément l'air de star. Enfin, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, anti-star.
Si, il y a eu quand même toute une époque, prenons la grande époque américaine, je pense à Gloria Swanson, à Greta Garbo, enfin Marlène Dietrich. On pouvait dire que là, vivait le temps des stars, parce que justement, il n'y avait peut-être pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas cette télévision qui démystifie un peu,
ou qui limitifie plutôt. Oui.
Alors de ce côté-là, peut-être les temps ont-ils changé, mais vous n'êtes pas reconnu dans la rue, me dit-on, alors que tout le monde vous connaît.
Pas tellement, non, justement.
Alors, ça vient de quoi?
Je sais pas. Quand je suis venue ici, justement, j'ai failli avoir un problème pour arriver juste à votre émission, parce que j'avais un rendez-vous juste avant et j'étais très, très, très en retard. Alors, je suis venue avec un ami qui m'a accompagnée en moto pour aller plus vite. Évidemment, j'avais pas de casque, on s'est fait arrêter par des agents de police. Alors, je leur ai dit, je suis Isabelle Huppert et je vais à la radioscopie. Et ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, mais vous avez pas de papier d'identité parce que moi, je vous reconnais pas. Je pense pas que vous êtes Isabelle Huppert. Alors j'avais des lunettes, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai dit si, je vous assure, c'est moi. Alors bon, à ce moment-là, il a dit ah bon, d'accord.
Pourtant, on vous reconnaît bien. Enfin, je veux dire, vous êtes là devant moi, je vous vois pour la première fois vraiment aussi près, on vous reconnaît tout de suite. Alors cela vient de quoi? Peut-être d'une grande pudeur que vous avez, et peut-être êtes-vous fautive, êtes-vous responsable?
Peut-être je fais rien pour qu'on me reconnaisse, mais peut-être aussi que c'est une question de... Oui, peut-être on... Enfin, si j'ai choisi d'être actrice, c'est parce que je pensais qu'on me verrait mieux sur un écran que dans la vie, précisément. C'est probablement pour ça que j'ai choisi, oui, d'être actrice.
Vous ressemblez aux jeunes de votre âge, vous êtes posé la question. D'abord, vous ne pouvez pas les...
Je les connais pas tellement.
Les rencontrer. Non, vous êtes quand même dans une discipline particulière.
Oui, je les connais pas tellement. Et puis, je sais pas si je le ressemble. J'espère que... Si je fais des films, j'espère que mes films parlent aux gens qui ont mon âge.
Il y a une difficulté à choisir son métier.
Moi, j'ai pas eu de difficulté. Ça s'est imposé assez naturellement. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas toujours été évident, mais je crois que c'était des difficultés, des incertitudes sur un fond très profond de certitude, et que je continue à avoir, même quand ça va moins bien, je pense toujours que c'est ça qu'il faut que je continue à faire.
On veut toujours donner une direction à sa vie, alors vous pensez que c'est le bon sens?
Ah, je ne sais pas si c'est le bon sens, en tous les cas c'est le sens que j'ai choisi de lui donner, oui. Et j'essaie que ça soit le bon sens.
Et vous êtes passée par les écoles?
Je suis passée par quelques écoles, mais j'ai fait le conservatoire de Paris, oui, mais j'aime pas tellement les écoles, et j'ai jamais tellement aimé. Je me suis toujours sentie très mal à l'aise dans les écoles. Je sais pas, c'est un groupe et j'aime pas tellement. J'ai jamais tellement aimé les groupes. Même quand j'étais au lycée, j'aimais pas tellement les bandes. Pendant dans les cours, j'aimais pas non plus tellement cette idée de groupe. On a du mal à se singulariser dans les groupes.
Isabelle Huppert, on a l'impression à vous suivre que votre route est remarquablement dessinée, que vous ne laissez rien au hasard. Donc,
ah bon,
tout est construit. Non, on a l'impression. D'abord, regardez le nombre de films que vous avez tournés en très peu de temps, disons 8, 9 ans, je ne sais pas. Il y en a combien? 25?
25 à peu près, oui.
25, hein, ça fait presque 3 par an. Alors, on peut se demander d'ailleurs si ça n'est pas trop. Mais je crois que vous n'avez pas eu à accepter ou à refuser les films.
Non,
vous voyez bien ce que vous
oui,
êtes.
Oui, je crois que. À chaque fois, il y avait une espèce d'évidence. Et bon, ça s'est présenté comme ça. Il y en a eu peut-être un petit peu trop. Récemment, je pense pas que ce soit un danger de tourner trop de films. C'est quelquefois difficile quand on tourne des films trop, trop rapprochés. Mais moi, je suis comédienne et ma façon d'être bien, c'est de faire des films et c'est de travailler. Donc je me demande pas si c'est trop ou si c'est trop peu. C'est comme ça. Et récemment, j'ai pas eu tellement à faire de choix. Tous les films qui m'ont été proposés m'apparaissaient un peu comme des évidences auxquelles je ne devais pas échapper.
Mais le russe,
je devais faire.
Le russe que vous avez appris au Langzo vous a servi un peu?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas encore travaillé en Russie?
Non, j'ai pas travaillé en
Russie. Mais ça pourrait servir?
Oh non, je pense pas.
Non?
Non, je pense pas. À moins qu'il y ait une coproduction franco-soviétique, mais je crois pas, non.
Enfin, lorsqu'on a la jeunesse en poupe, comme vous l'avez, on a peut-être aussi un peu d'inquiétude, parce qu'on se dit, est-ce que
ça va durer?
Oui, mais enfin, il ne faut pas se poser la question.
Non.
Je crois que vous êtes armé pour ne pas vous poser la question. D'ailleurs, pour répondre à d'autres aspirations.
Oh, ça c'est vite dit. On n'est jamais assez armé, je crois, dans la vie. Jamais, mais c'est pas mon problème pour le moment. Ça serait dommage que ce le soit pour le moment, ça le sera peut-être un jour, mais pas pour l'instant.
Le premier départ a été donné par qui?
Par qui ou par quoi?
Par qui et par quoi? Il y a toujours un film, forcément.
Par qui? Par moi, je crois. Ouais. Par moi.
Parce que vous l'avez voulu?
Ah oui, je crois vraiment qu'il fallait que je le veuille, parce que je pense que au départ, rien de ce que j'avais ne pouvait laisser présager que je serais comédienne. Enfin, ce dont vous parliez tout à l'heure, je crois que bon, c'est vrai, personne... Je pense pas tellement qu'on me regardait, je pense pas tellement que... Il a vraiment fallu que je veuille. Mais je crois que c'est énorme dans le fait d'être comédienne. Je crois qu'il y a un problème de désir très très... Pas seulement d'ailleurs dans le fait d'être comédienne, dans le fait de faire n'importe quoi.
Une envie, une foi.
Oui, un désir surtout. J'aime assez ce mot du désir, plus que la foi ou la vocation. Vouloir plaire, vouloir qu'on vous regarde, c'est vrai.
Vous êtes de ceux et de celles qui sont persuadés que si l'on veut vraiment les choses, on les obtient. Il faut quand même qu'il y ait une petite base. Hein.
Pas uniquement, il faut aussi peut-être avoir un peu de chance. Non, c'est pas uniquement comme ça, parce que je pense que sinon, il y aurait tout le monde réussirait. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est bien identifier son désir et bien savoir ce qu'on veut. Mais je dis pas que ça suffit, loin de là.
Alors, Isabelle Huppert,
il faut.
Oui.
Le travail aussi, ça compte. Beaucoup.
Isabelle Huppert, j'avais annoncé que vous veniez, et on le savait, et j'ai reçu énormément de lettres, enfin, où on parle de vous, et je veux dire que les jeunes s'identifient plus facilement à vous qu'à d'autres. Alors, cela tient à quoi?
Cela tient à quoi? Je sais pas, peut-être au personnage que j'ai joué dans les films que j'ai fait.
À une certaine discrétion que vous avez, peut-être aussi.
Mais je pense pas que je sois discrète, moi. Pourquoi vous pensez que je suis discrète?
Si, vous l'êtes. Mais vous allez finir par le regretter, je vous dire pourquoi. C'est parce que vous pensez que ça va devenir une image, que vous allez être cataloguée comme discrète et comme la jeune fille. Vraiment.
Non, mais je veux dire, c'est pas forcément une qualité d'être discrète.
J'ai vu quelque part mutisme, alors qu'il n'y a pas de mutisme chez vous.
Ah, mutisme peut-être, mais le mutisme, c'est pas la discrétion. Moi, je pense pas du tout que je sois quelqu'un de discret. En tous les cas, si je le suis, c'est pas de mon fait. Mutisme, peut-être, oui. Il y a peut-être une volonté de pas trop dire, une certaine retenue, mais discrétion, il y a un côté comme ça, bon genre, dans la discrétion, dans lequel je me reconnais pas tellement. Mais peut-être, effectivement, ne pas vouloir trop en dire, encore une fois, se cacher, et là, encore une fois, c'est sans doute pour ça que j'ai choisi d'être comédienne, parce que paradoxalement, être actrice, c'est à la fois se montrer et se cacher, et c'est choisir son écran, précisément l'écran du cinématographe, pour faire écran entre soi et les autres. Et en fait, en étant actrice, j'ai pas vraiment le sentiment de me montrer, c'est vrai. Je me montre comme ça, dans une fiction, je me montre à travers d'une histoire qui ne m'appartient pas. Et j'aime mieux parler à travers mes rôles qu'à travers moi-même.
C'est aussi être seule, et peut-être un peu égoïste.
Non, c'est pas... C'est être seule, peut-être. Enfin, à la fois être seule et protégée, et bien entourée. Un écran, ça vous protège, quand même. On met un écran comme ça, pour se protéger de la lumière et pour se protéger du soleil. Mais non, c'est pas... C'est pas être égoïste en tous les cas, je pense pas. C'est éventuellement être égocentrique, ça, oui, beaucoup. On est très égocentrique, on pense beaucoup à soi. Tout est comme ça, focalisé sur vous. Bon, ça c'est une fonction qui veut ça.
Vous retrouvez de temps en temps les étangs de Ville-la-Vraie ou bien c'est une enfance abandonnée?
Je les retrouve quelques fois, au moins une fois par semaine. Mais... Bon, je suis pas non plus beaucoup à Paris. J'aime bien voyager, j'aime bien partir. J'aime bien être ailleurs, j'aime bien toujours partir, c'est vrai.
Et si vous n'aviez pas eu la chance d'un premier rôle, vous auriez été tout à fait assidue, tout à fait attentive, vous auriez su patienter, parce que c'est difficile parfois.
J'ai su patienter.
Pas tellement, tout a commencé tellement vite.
Mais enfin, pas tellement.
25 ans, il y a 8 ans, 17 ans. Quel était le premier film?
Le premier que j'ai tourné, ça s'appelait Le Bar de la Fourche, c'est un film avec Jacques Brel.
Oui.
Et le premier film qui m'a fait connaître d'une façon un peu plus publique, c'était La Dentelière. Et entre ce premier film et La Dentelière, il y a quand même 3 ou 4 ans qui se sont écoulés. Et j'ai pas tout le temps eu le sentiment que c'était rapide, c'est pas vrai. Bien sûr, quand c'est arrivé, bon, il y a un caractère comme ça aussi d'instantanéité, enfin un peu, surtout dans les journaux, comme ça on a l'impression que les choses vous arrivent un peu par miracle. Mais je veux dire, 3 ans ou 4 ans, de 17 à 20 ans, à 21 ans, c'est long, c'est pas... Et puis si c'est pas maintenant, si c'est pas à cet âge-là que ça devait arriver, c'était pas... Enfin, en ce qui me concerne, ça n'aurait jamais été. Je pense qu'il fallait que je joue maintenant.
Vous connaissiez Jacques Brel, ce que vous avez tourné avec lui?
Ah oui,
vous l'écoutiez?
Oui, je l'écoutais, oui. Plus que je ne parle avec lui, c'est vrai. J'ai pas un souvenir très très précis de lui. Je veux dire, j'ai pas vraiment discuté avec lui, mais c'était quelqu'un de très blessé, comme ça. J'ai le souvenir d'une personne assez blessée, puis qui avait un rapport, une communication assez difficile avec les femmes. Mais il avait un humour extraordinaire, il était très mordant comme ça, très, très corrosif, très très drôle et très, très gentil, très gentil.
Lorsqu'on parle des films, on a le souvenir de metteur en scène ou de comédien ?
Moi, j'ai plutôt le souvenir de metteur en scène, plutôt. Parce que j'ai des... Enfin, les metteurs en scène avec lesquels je tourne me marquent assez profondément. Et c'est des gens comme ça qui sont des espèces de références pour moi assez, assez fortes. Enfin, je pense bon, à des gens comme Piala, Godard, Cimino. Donc, je pense que c'est plutôt des metteurs en scène. C'est vraiment des figures comme ça, très... Très, qui me laisse un souvenir très très fort.
Puis pendant ces périodes, vous avez souhaité prendre aussi des petits chemins de vagabondage, parce qu'il y avait d'un côté la Comédie Française, de l'autre la télévision. D'ailleurs, vous auriez pu peut-être entrer à la Comédie Française.
Oh, je crois pas, non. J'ai été figurante à la Comédie Française.
Non, mais vous n'y avez pas pensé, ou peut-être y pensez-vous aujourd'hui ?
Non, j'y ai pas pensé, non. J'y ai pas pensé, mais je pense pas qu'ils y aient pensé aussi. Moi, j'y pensais pas, mais j'ai fait du théâtre et... J'aimerais bien refaire, j'aime bien le théâtre.
Oui, mais il y a tous ces films et il y a en fait une passion qui est sans doute freinée pour le théâtre et on ne peut pas tout faire.
On ne peut pas tout faire, non, c'est vrai.
Il faut choisir. Puis le cinéma vous prend, il prend des semaines et des semaines et des semaines.
Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est très difficile. Je pense qu'avant, les acteurs avaient plus de possibilités probablement de faire du théâtre et du cinéma parce que les films se tournaient plus en studio et c'était des carrières qu'on mêlait plus facilement. Je crois aussi qu'en France, il y a un fossé entre les acteurs de cinéma et les acteurs de théâtre qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Il n'existe pas tellement en Angleterre. Enfin, en Angleterre, de toute façon, il y a tellement peu de cinéma que probablement que les acteurs n'ont pas tellement le choix. Mais en tous les cas, aux États-Unis, où des grands acteurs de cinéma reviennent régulièrement au théâtre, il y a moins ça en France et c'est dommage. C'est dommage pour le théâtre.
Entre ce commencement, c'est-à-dire ce premier film, et puis par exemple Une dame aux camélias, enfin La dame aux camélias aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit je vais aller ailleurs, je vais prendre un arrêt, une petite année sabbatique, je vais peut-être faire un autre métier.
Oh, je me le
dis. Je vais reprendre le russe.
Non, jamais je reprends. Non, reprendre le russe, ça je pense pas, mais ça c'est quelque chose que je me dis très très souvent. Je me le suis dit beaucoup cet hiver. J'ai pas tourné depuis 3 ou 4 mois, de 5 mois, depuis le mois de novembre où j'ai tourné mon dernier film. Et là, j'ai eu une espèce de trou comme ça. J'avais envie de m'arrêter. J'avais pas envie de m'arrêter pour toujours, mais je crois que c'est une idée qu'on a assez souvent d'ailleurs. C'est une espèce de fantasme comme ça qu'on a de se retirer. Je crois que finalement, quand on fait des films, on se montre beaucoup, tellement. Enfin, on se montre, on se projette hors de soi-même comme ça à une échelle qui est presque inhumaine au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand son visage est représenté 10 fois à l'échelle humaine sur un écran, enfin c'est quelque chose d'un peu inhumain. Et je crois qu'après ça, on a effectivement une envie de se rétracter comme ça, de partir, de plus voir personne. Alors cet hiver, je me disais comme ça que j'avais envie de m'arrêter pendant un an. C'est un terme que je prenais aussi. Je me disais je vais prendre une année sabbatique. Et puis en fait, je me suis arrêtée 5 mois, là je vais recommencer à tourner, je suis très, très contente de recommencer. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin et envie de m'arrêter très longtemps. J'ai eu besoin pendant un temps de penser que j'allais m'arrêter très longtemps, même si en fait ça n'a pas duré aussi longtemps que je le pensais.
Pour vous retrouver ? Pour essayer de faire le point, parce que ça va vite ?
Un peu pour, un peu pour me retrouver, un peu pour savoir qui j'étais, parce que quand on saute d'un film à l'autre comme ça, c'est vrai qu'on est un peu brisé, un peu éclaté comme ça dans tous les sens. On ne sait plus tellement qui on est. Alors je ne sais pas si je sais plus qui je suis en tous les cas, mais je sais que j'ai à nouveau envie d'être quelqu'un d'autre de toute façon.
Mais vous pourriez envisager un autre métier, un autre avenir ?
Non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Je ne sais pas ce que
je crois. On est comédien pour la vie.
Je crois, oui. Je crois. Je peux aussi, j'arrive à goûter la vie aussi, même quand je ne tourne pas. Ce qui ne m'était pas arrivé d'ailleurs très souvent. C'est ça aussi que je voulais vérifier peut-être, c'est de savoir si j'étais capable d'apprécier comme ça des petits plaisirs très très simples de l'existence en dehors d'un plateau de cinéma et en dehors d'une caméra et d'une équipe qui vous regarde tourner.
Alors quels sont les plaisirs très simples ?
Sortir dans la rue et se promener, par exemple. Ça, c'est un plaisir très, très simple. Mais j'ai fait beaucoup ça pendant 4 mois. J'ai marché beaucoup dans Paris, comme ça. Et j'aimais bien. C'était très agréable. Je marchais le nez au vent. Et je regardais autour de moi. Et je l'appréciais beaucoup. J'avais un grand plaisir à faire ça. Et puis j'ai voyagé aussi, pas mal. C'était agréable.
Vous êtes allé où ?
Je suis allée en Amérique, pas mal, et je suis allée un peu au Brésil aussi. Et puis je viens.
Peut-être avez-vous l'impression d'avoir fait trop de sacrifices entre 17 et 25 ans pour assurer une vraie carrière, sans vouloir de toute manière faire carrière, parce que les choses viennent comme ça.
Sur le moment, je n'avais pas le sentiment de faire de sacrifices, mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que finalement, je n'avais pas tellement bien vécu mon adolescence, finalement, que je n'avais pas eu d'adolescence. C'est-à-dire que j'étais pas très heureuse quand j'avais 16, 17, 18 ans, je crois. J'ai pas eu une adolescence comme ça, légère, heureuse. On sort, on s'amuse. Bon, alors peut-être à cause de ça, je me suis dit que très très vite, il fallait que je fasse quelque chose qui m'intéresse. Et puis maintenant, bon, que je sens que j'y arrive, j'ai peut-être eu le sentiment qu'il fallait que je commence à vivre vraiment mon adolescence maintenant. Et quand je dis adolescence, pour moi, j'associe adolescence comme ça à une image de comme ça de légèreté et de bonheur, ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que finalement l'adolescence c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être moi dans mon fantasme qui éprouvait le besoin de me dire ça, mais finalement avoir 18 ans, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément être très très heureux. Je suis frappée par les gens qui très très souvent disent qu'ils ont commencé à être heureux plutôt vers la trentaine finalement que vers la vingtaine.
Mais vous avez aujourd'hui 25 ans, Isabelle Huppert, vous avez l'impression
26 ans,
vous avez l'impression de passer un cap.
Oui, en ce moment, oui, j'ai l'impression d'aller vers la trentaine justement.
Mais c'est le cap difficile.
Non, c'est pas. Enfin, ça dépend des jours, mais il faut l'accepter. Puis, au contraire, je le prends comme une. Je crois que c'est le début.
Comme une récompense.
Peut-être, oui. Ouais. C'est le début de la jeunesse, peut-être, justement. J'ai pas eu le sentiment d'avoir été jeune jusqu'à présent. Et alors ça, c'est plutôt bien. J'ai plutôt le sentiment, en ce moment, d'être au début de quelque chose. Et je crois que c'est un petit peu ça, d'être heureux, peut-être. Être heureux, c'est probablement avoir le sentiment d'être au début de quelque chose et non pas à la fin. Je crois que les moments dans la vie où on est malheureux, c'est quand on a l'impression qu'on est à la fin de quelque chose, qu'on bute contre quelque chose. Et moi, bon, je vais peut-être vers ma trentaine, donc c'est peut-être la fin des années comme ça.
Quatre années importantes,
mais c'est un début. Enfin, dans ma trajectoire personnelle, c'est un début finalement.
Vous lui demandez quelque chose à la vie?
Elle a été belle
jusqu'à présent. 25 films, 2 vrais succès, une vraie reconnaissance.
Je lui demande tout et je suis...
Boulimique.
Je suis boulimique, oui, ça, dans tous les sens du terme. Et je suis toujours révoltée de ne pas tout avoir. J'ai vu une très très belle phrase de Nizan qui résume assez bien ça et qui dit « Un jeune homme, enfin moi je l'ai prise pour moi, donc on peut aussi bien dire une jeune femme, ou un jeune homme est le seul être qui a le droit de tout exiger et de se sentir volé s'il n'a pas tout. » Et moi, je me sens volée si j'ai pas tout.
Je crois qu'en plus, c'est le problème de la jeunesse actuelle. Je crois qu'elle veut tout.
Oui,
il faut tout vouloir.
Je crois que c'est le problème
avoir un peu
éternel de la jeunesse. Mmh. Et puis, probablement, être jeune, c'est ça. Pas simplement de la jeunesse.
Ouais. De tous.
Pas forcément des gens qui ont entre 20 et 30 ans, mais des gens aussi qui... Même après, être jeune, c'est probablement, oui, se sentir volé quand on n'a pas tout.
Isabelle, quels sont les films que vous revendiquez comme très importants dans votre carrière? Bon, sur les 25, quand même, on peut faire
oui, on peut
un
en
peu
extraire.
Plus que le tiercé. Hein.
On peut en extraire quelques-uns. Bon, le plus important, c'était probablement la... Le premier plus important, c'était probablement la dentelière.
La dentelière,
oui. Par le rôle et par l'écho que le film a rencontré auprès du public. Mais c'était très important. En plus, c'était quelque chose qui est sorti de moi comme ça, très très, très naturellement. Ça exprimait certainement, enfin, comme tous les films que je fais, parce que c'était toujours un peu ma démarche, finalement, de trouver des sujets qui correspondent à mon état du moment. Mais enfin, c'est certainement le film qui a exprimé le plus fort ce que je ressentais à l'époque où je l'ai tourné.
1. La dentelière. 2.
Celui qui a suivi, Violette.
Violette Nozière,
oui.
Et puis
le prix d'interprétation. Oui. Et Violette, c'est un rôle que j'aime beaucoup, c'est un film que j'aime énormément. J'aime beaucoup Violette. Et puis...
Pourquoi vous aimez Violette Nozière? C'est peut-être parce que d'abord, il y a eu ce drame. Rappelons, c'est, je crois, en 1934.
1933, oui.
Une parricide.
Une jeune fille qui a tué son... qui a tué son père et sa mère, enfin qui a tenté de tuer son père et sa mère. Son père est mort et sa mère n'est pas morte. Je pense pas que ça soit parce que c'était un personnage qui existait, parce que ça en fait c'était pas très très important pour moi.
Plutôt mais... meurtrière et victime.
Quoi. Oui, meurtrière et victime, c'est ouais. ça. Il y a un côté comme ça double dans le personnage.
Dans beaucoup d'êtres humains.
Voilà, c'est ça. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de il y avait un côté très très fondamental comme ça dans le personnage. Meurtrière et victime, et femme et enfant, comme ça, parce qu'il y avait ce double aspect, puisqu'elle se déguisait comme une femme le soir, et la journée, elle vivait comme une petite fille. Donc je crois que toute la vie, on hésite toujours comme ça, entre deux côtés de soi-même. Et donc, bon, pour ça, j'aimais bien ce personnage.
Donc, un, la dentelière, deux, Violette Nozière, en trois.
Loulou, j'aime Loulou, oui.
De Piala.
Oui, de Maurice Piala. Et puis, je crois que le film le plus important, en fait, c'est toujours un peu le dernier qu'on a tourné, oui. puisque c'est celui qu'on a le plus présent à l'esprit.
Sauf qu'il peut la vie, non ?
Sauf qu'il peut aussi, oui, bien sûr, j'oubliais, sauf qu'il peut. Non, en
Une
fait,
rencontre
sauf
avec Jean-Luc
le
Godard.
Film de Cimino aussi, Heaven's Gate, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous...
Non, mais j'ai simplement lu qu'il y a eu un petit échec aux États-Unis. Enfin, il n'a pas été accepté comme on l'aurait souhaité.
C'est une aventure qui n'est pas terminée.
Quel est le titre français ?
Les Portes du Paradis.
Les Portes du Paradis, oui.
Heaven's Gate en anglais. Et c'est une aventure qui a commencé ça fait 2 ans maintenant que je suis partie pour tourner ce film. Le film est sorti aux États-Unis au mois de novembre. Les critiques ont été très 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 mauvaises. Et devant ce raz-de-marée, Michael Cimino, le metteur en scène, a décidé de retirer son film de l'affiche et de le remonter. Et il a coupé 1 heure. Et le film va être présenté en compétition au Festival de Cannes cette année.
C'est mieux ? Avec une coupure d'une heure, c'est beaucoup une coupure d'une heure.
C'est beaucoup, mais le film était très très long, il durait 4h moins le quart. Et j'ai vu la version définitive qui dure 2h30 maintenant, qui est très, très, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup.
Puis Cimino, on l'attendait au tournant aussi.
Oui, on l'attendait beaucoup au tournant, il avait eu beaucoup de succès avec le Deer Hunter. C'est un film qui avait, en plus, bon, Les Portes du Paradis, c'est un film qui avait coûté très très cher et qui avait... tripler son budget au cours du tournage, donc il y avait un mauvais climat autour du film. Et puis je crois qu'il y a aussi le fait que la critique américaine a fondamentalement refusé le sujet du film. C'est un film assez anti-américain qui touche comme ça à l'histoire américaine, et je crois que les Américains sont très subversifs, très comme ça, ils peuvent démonter beaucoup de choses, mais ils sont finalement très très patriotes, et je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup quand même qu'on touche comme ça au fondement de la nation.
Mais Isabelle Huppert, vous souhaiteriez faire une carrière américaine ? Enfin, lorsqu'on est comédien, on a envie d'explorer tous les recoins du monde.
Je crois que personne ne cracherait sur une carrière américaine.
Oui.
Mais bon,
peu de Français sont acceptés, il faut bien le reconnaître quand même.
Peu de Français sont acceptés, oui. C'est pour ça que moi j'ai toujours été... prudente vis-à-vis de ça. Peut-être, j'ai toujours dit que je n'aimerais pas, c'est peut-être parce que je le souhaite tellement que je ne veux pas être déçue, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Mais c'est vrai que quand j'étais là-bas, j'ai toujours dit que non, que je ne voudrais pas faire une carrière américaine. Enfin, je pense de toute façon qu'il faut aller là-bas, s'ils vous demandent d'aller là-bas, comme j'ai eu la chance qu'on me le demande. Et en plus, dans le film de Cimino, je joue le rôle d'une Française, donc là, je veux dire, il y a eu une série de choses qui ont fait que j'ai eu beaucoup de chance d'aller faire ce film. Je ne sais pas si demain, je rencontrerai une occasion pareille. Donc, devant le doute, je préfère me dire que, pour l'instant, que ces raisins sont trop verts. Mais j'aimerais quand même bien
faire
des films.
Arrivez à vous poser la question, pourquoi les metteurs en scène me cherchent-ils, m'engagent-ils si souvent ? Parce que vous avez la chance d'avoir les plus grands, il doit y avoir des motivations secrètes de leur part, et très visibles d'ailleurs.
Oui, ça m'arrive de me le demander. Ça serait plutôt à eux qu'il faudrait le demander. Mais moi, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Je pense qu'un acteur, c'est une page blanche sur laquelle les metteurs en scène, comme ça, peuvent inscrire leurs idées. Et moi, je pense que, quelquefois, oui, j'ai souvent pensé que j'étais une page très blanche, comme ça. Enfin, que j'étais un peu une éponge et que je pouvais absorber pas mal de choses.
Disponible.
Assez disponible et malléable.
Parce que je regarde quand même ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Il y a une comédienne, c'est vous. Il y a une ville, c'est Cannes. Il y a un festival, c'est le festival de cinéma que l'on connaît. Et puis il y a 3 films, Les Héritières, Sauf qui peut la vie et Loulou. Et pour ces 3 films, il y a encore vous, c'est-à-dire la comédienne. Et 3 films dans un même festival, représentant 3 pays différents. C'est quand même beaucoup. Alors, on peut avoir, si on n'est pas très bien installé, la tête qui tourne. Surtout lorsqu'on est jeune. Et très jeune.
Oui, la tête qui tourne de plaisir, oui, éventuellement.
Oui, mais si elle tourne de plaisir, ça va, mais parfois on peut avoir aussi une tête qui monte en altitude.
Non, je crois pas, parce que moi, j'ai toujours pensé que toujours dans la fameuse révolte dont je parlais, je pense qu'on a toujours envie d'avoir plus, donc c'est jamais le moment d'avoir la tête qui tourne, il faut toujours garder la tête froide pour essayer de... C'est un plaisir, mais c'est pas un sommet en soi. Je crois que il y a un moment donné, ça me faisait l'idée du succès d'ailleurs me faisait très très peur parce que je vivais le succès comme ça, comme un succès éventuel. J'imaginais que c'était une fin en soi justement et qu'après il se passerait plus rien. Et puis en fait, j'ai eu quelques succès successifs et je me suis aperçue que c'était faux, qu'à travers ces succès, bon, j'avais toujours envie de faire d'autres choses et que c'était jamais arrivé. Donc il n'y a pas de quoi avoir la tête qui tourne.
Mais il n'y a pas que le succès. Le succès, beaucoup de comédiens l'ont, ce succès. Mais il y a également la bonne image. C'est-à-dire qu'il y a la bonne relation entre le succès et l'image que l'on donne. D'une comédienne assise, enfin, qui respecte une certaine manière de jouer et puis qui est reçue.
Oui, mais l'image que l'on donne, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, je crois. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est jamais...
Et ça ne se prépare pas.
Non, c'est pas quelque chose qui se calcule. De même, savoir, bon, quel est son public. Moi, je sais pas quel est mon public. Le premier public que j'ai, c'est moi. Je veux dire, je fais des films, je choisis des rôles ou des metteurs en scène parce que ça me fait plaisir de tourner avec eux et puis parce que ça correspond à des choses que j'ai envie de dire. Et puis bon, j'imagine que si j'ai envie de les dire et que si c'est des choses qui partent d'assez profondément en moi, de plus profondément elles partent de moi et plus profondément elles risquent d'atteindre les gens, je pense. Mais c'est pas quelque chose, il y a pas de stratégie, je crois.
Mais une mauvaise critique, une mauvaise opinion pourrait vous faire mal ?
Oui, ça me fait mal, oui, absolument. Oui.
Oh, vous n'avez pas été tellement blessé jusqu'à présent ?
Je l'ai été quelques fois et c'était toujours trop. J'aime pas être blessé. Ça me fait mal, bon, en même temps, je fais la part des choses, c'est normal, mais je l'ai été quelquefois avec un peu le sentiment d'une injustice. Une mauvaise critique, c'est quand même toujours le sentiment qu'on n'a pas été comprise, que, surtout quand on a fait les choses bon, en y croyant et en pensant qu'elles étaient justes. Si elles sont mal interprétées et mal reçues, c'est jamais très agréable. C'est pas grave, ça n'a aucune gravité, mais c'est pas agréable.
Mais cette fois-ci, vous vous êtes posé la question, dois-je le faire lorsqu'on vous a proposé la Dame aux Camélias, parce que vous veniez avec, après beaucoup d'autres, Sarah Bernhardt, Greta Garbo, Edwige Feuer. Je ne sais pas s'il y aura d'autres comédiens après vous, d'ailleurs, aussi.
Oh, il y en aura probablement, oui.
Parce que c'est fou, alors que cette dame inspire les metteurs en scène, et Bologna en particulier.
Oui, je me suis pas vraiment posé la question, parce qu'au départ... on m'a pas présenté les choses comme étant la Dame aux Camélias. C'était l'histoire de la jeune fille qui a inspiré Alexandre Dumas pour son roman. Et j'ai pas eu le sentiment de faire une 22e Dame aux Camélias. Je veux dire, c'était une approche comme ça un peu réaliste d'un personnage qui a existé et qu'on a essayé de
plutôt l'histoire d'une jeune fille de 23 ans qui brûle sa vie.
Voilà, quoi. Une jeune fille de l'histoire démarre quand elle a 15-16 ans.
Oui, jusqu'à
23 ans, parce qu'elle est morte très jeune. Et,
ouais.
et
qui Mais c'est l'espace vie. Entre 15 et 23
oui.
qui est important à combler.
Oui.
Et vous pouvez être ce personnage, et c'est cela l'important. Et puis à 23 ans, en plus, c'était votre âge. Alors, peut-on brûler toute sa vie dans une aventure ? Vous avez pu vous poser la question, non pas que vous ayez fait un parallèle avec cette dame.
On fait toujours un peu des parallèles avec les dames qu'on joue.
On entre dans le personnage,
hein.
On entre dans le rôle. Mais vous pouvez entrer dans ce rôle, vous pouvez être cette dame. Dans la vie, vous pourriez être cette dame. Cette jeune fille,
crois,
disons.
Oui. Je crois, oui, je crois. Mais on entre celle-là ou n'importe quelle autre. Je crois que quand on commence à jouer un personnage, c'est parce que... C'est pas qu'on pense qu'on pourrait l'être, c'est qu'on croit qu'on l'est pendant un temps. C'est faux, bien évidemment, mais émotionnellement, on croit qu'on l'est. Même pas forcément anecdotiquement, mais émotionnellement, on pense toujours qu'on l'est. Et on met beaucoup de temps à comprendre qu'on l'est pas et qu'on va en être d'autres, d'ailleurs. Mais pendant longtemps, on croit qu'on l'est. Alors, c'est bien quand c'est des personnages qui n'ont pas des fins tragiques, et c'est plus difficile et douloureux quand c'est des personnages dont l'histoire se termine mal.
C'est encore l'histoire de cette jeunesse qui veut tout et qui veut brûler toutes les passions.
Oui, c'est ça.
Hein, on revient toujours, au même départ. Mais quelle idée, Isabelle Huppert, vous faites-vous de la vie, des relations surtout entre les êtres ? Vous n'avez pas tellement l'occasion de rencontrer les autres. Si, vous vivez
si, quand même,
dans votre chapelle.
Bah oui, mais enfin, ma chapelle, c'est pas une chapelle. Ma chapelle, c'est... Le cinéma, c'est... J'allais dire, le cinéma, c'est la vie. Mais enfin, c'est vrai, je veux dire... Les relations que j'ai dans cette chapelle, elles sont aussi réelles et aussi vraies que n'importe quelle relation que je pourrais avoir en dehors du cinéma. C'est des relations qui ont beaucoup de réalité. Donc, j'ai pas du tout le sentiment d'être coupée et de pas rencontrer des gens. Sauf que bon, ça tourne toujours autour d'un travail. Mais c'est mélangé. Je veux dire, moi, je fais des films avec ma vie, et ma vie, c'est mes films, c'est tout pareil.
Mais à 26 ans, après 25 films, les choses deviennent-elles plus difficiles ? On s'interroge peut-être un peu plus sur les choix à faire.
Oui, elles deviennent... les choix deviennent plus difficiles, il y a peut-être un petit peu moins d'innocence aussi, quelquefois.
On perd son innocence ?
Il faut essayer de la garder, mais peut-être on la perd un petit peu, oui. On perd un peu de naïveté, d'innocence. On a des ressources, on a des réserves en soi qu'on cultive, mais on en perd quand même un petit peu.
Donc on s'arme pour accepter le pire.
Oui, un petit peu, oui.
Demain, vous pourrez accepter un mauvais rôle.
Ah non, non, non. Non, le pire, c'est c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est des choses qui vous arrivent sans qu'on les ait voulu. Les rôles, on les prévoit et on les veut, donc... Un mauvais rôle, jamais.
Mais vous, quand même, Isabelle, que c'est un marathon, ce que vous avez fait. On parlait de boulimie, il y a une frénésie, comme si vous aviez souhaité vous étourdir, oublier tout le reste.
Oui, un petit peu, oui, c'était un peu une fuite, c'est vrai.
Puis gommer peut-être un peu l'atmosphère familiale aussi, faire oublier les trois sœurs.
Non.
Dites-moi franchement.
Non, je ne crois pas. Non, mais avancer dans la vie, je crois que c'est à la fois... Enfin, avancer dans la vie et faire des choses, je crois que c'est à la fois... c'est toujours un peu vouloir oublier son passé, c'est vrai. Enfin, s'en servir s'en servir, mais à la fois l'oublier. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Il faut bien passer à l'âge adulte un jour, il faut bien sortir de l'enfance. Donc c'est vrai, c'est consciemment l'oublier tout en sachant qu'il est là et qu'on l'utilise dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on montre.
Vous n'allez pas me dire quand même qu'avoir 26 ans, c'est être vieux ?
Mais non, je vous ai dit le contraire il y a 10 minutes, justement.
D'accord.
Je vous ai dit que c'était commencer à être jeune, au contraire. Mais être jeune, ça ne veut pas dire être infantile. Et oublier son passé, quelquefois, ça veut dire justement ne plus être infantile. Parce que quand on vit trop avec son passé, ça peut devenir quelquefois de l'infantilisme ou de la névrose. Et ça, c'est pas ça qui vous fait avancer.
C'est surtout être bien n'importe où.
Oui, être bien.
À la seule condition qu'on les choisisse,
oui,
ce n'importe
où.
Hein.
Oui.
Et être soi.
Oui.
Ça, c'est le plus difficile.
Oui, ça, c'est...
Parce que vous entrez dans tellement de rôles qu'à la fin, quand même...
Bah, oui, enfin...
Qui suis-je, non
être, oui, qui suis-je, c'est à la fois être les autres, être soi. Mais enfin, en même temps, à force d'être les autres, ça finit par vous dire des choses sur soi, en même temps. À force de toujours entrer dans... comme ça, dans des personnages différents, dans la mesure où le dénominateur commun à tous ces personnages, c'est soi. Bon, on voit après les films, on se dit, ah oui, tiens, ça, c'est des informations sur soi, quand même.
Mais le merveilleux du comédien consiste à n'appartenir à rien, et dans le même temps, c'est un peu tragique.
À n'appartenir à rien ?
Oui.
Oui, c'est vrai.
Bah oui.
Oui, c'est vrai. C'est tragique, et c'est grisant, en même temps. Oui, c'est vrai, il y a un côté comme ça... Vouloir à tout prix couper ses racines, être un peu errante comme ça, être mouvante, être seule. Et puis à d'autres moments, ça fait très très peur. Et alors là, on essaye de se recréer des racines, mais pas très très longtemps. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien comme ça être apatride, ne pas avoir de racines, pas savoir d'où je viens souvent. C'est quelque chose qui me... Ne pas avoir de passeport, oui. D'ailleurs, j'en ai jamais de papier sur moi. D'ailleurs, si j'avais des papiers, j'aurais pu les montrer à cet agent de police, mais en plus, j'en avais pas.
Et c'est vrai, casser les frontières.
Oui, casser les frontières.
Je ne pense pas que ce soit pour demain, hélas.
Ah bon ?
Ah, plus on va, plus on veut installer une nouvelle frontière.
Oh, ben ça... Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend qui ? Ça dépend qui, oui.
Non, je parle des États.
Oui, oui, non,
mais dans
non,
la volonté de chacun d'entre nous, non.
Dans les volontés de chacun d'entre nous, je ne crois pas non plus. Oui.
Et si un jour vous deviez trouver tout cela dérisoire, vous dire, tiens, j'ai des souvenirs, j'ai des nostalgies, en fait, peut-être aurais-je dû avoir une famille, des enfants, une vie...
Oh, mais je le trouve déjà un petit peu dérisoire. Enfin, je crois qu'il faut, pour bien vivre...
Vous continuez, vous avez raison, là.
Non, mais pour bien vivre les choses, il faut à la fois croire que c'est les choses les plus importantes du monde, et puis en même temps... Les trouver dérisoires, justement. Mais, bon, avoir une famille et des enfants, je pense, j'espère que ça m'arrivera. Ça n'a rien à voir. On peut vouloir être apatride et sans racines et avoir quand même
une territoire.
Famille et un territoire, oui, un territoire dans sa tête.
Mais les parents sont contents de ce qui vous arrive ?
Oh, je crois, oui, ils n'ont pas l'air mécontents.
Ils vous le disent ?
Oui, oui.
Mais vous avez besoin de leur adhésion ?
Ah, j'ai besoin... De leur reconnaissance, oui, c'est important pour moi. De la reconnaissance de mes parents, de ma famille, des gens que j'aime, oui, c'est très très important. Je crois que, en fait, on fait tout ça un peu à la fois pour tous ceux qu'on ne connaît pas, mais enfin, ça c'est un petit peu abstrait finalement, et puis pour soi, et puis pour un petit nombre de personnes qui vous entourent, dont on a besoin de savoir qui vous aiment et qui vous admirent, c'est vrai.
Il est facile d'être comédienne. Vous savez, décortiquer maintenant votre métier. Je me demande ce que vous pouvez répondre à ceux qui vous écrivent et qui vous disent « Dois-je continuer ? Dois-je y croire ? Dois-je espérer ?»
D'être comédienne, bon, il y a deux choses. Il y a arriver à être une comédienne à qui, bon, on propose des rôles intéressants. Alors ça, j'aurais pas de conseils à donner. Je crois que la réponse est en chacun. Non, c'est pas vraiment facile. C'est vrai qu'il faut... Bon, il faut quelquefois s'accrocher, persévérer, être assez patient, assez humble aussi, je dirais, à beaucoup d'occasions. Savoir faire d'abord beaucoup de petites choses avant que les grandes vous arrivent. Enfin, j'ai l'air de parler un peu comme une grand-mère, mais je crois que c'est un petit peu vrai, ne pas forcément vouloir avoir tout sur le moment. Mais l'exercice... proprement dit du métier de comédienne, alors moi je trouve pas ça très difficile. Je pense que de toute façon les choses qu'on fait bien, on les fait bien justement parce qu'à un certain niveau on les fait sans difficulté. Et moi j'aime pas tellement comme ça la notion d'effort et de besogne comme ça dans l'exercice de quelque chose. Moi je sais que bon, quand je joue, je veux dire le moment où ça se passe vraiment, quand je suis sur un plateau, c'est facile, j'ai pas de problème. C'est si on aime ça et si on se sent bien là-dedans, ça coule un peu de source. Et non, honnêtement, c'est pas très difficile.
C'est un métier recommandable, dans le sens recommandable, on peut le recommander.
Oh ben c'est un métier très recommandable, oui, je crois, oui, oui.
Alors vous disiez à l'instant, Isabelle Huppert, que vous êtes apatride.
Non, j'aimerais l'être.
Oui, mais c'est la même chose. C'est donc qu'on l'est à l'intérieur de soi-même. Mmh. Alors, je me demande où on pourrait trouver cette terre, ce carré d'adolescence dans le monde, c'est-à-dire où il n'y aurait pas de bruit, où il n'y aurait pas de rumeurs, où il n'y aurait pas de guerre. Car c'est cela, être apatride. Oui. C'est aller quelque part où vraiment, enfin,
où c'est calme,
on se croit un peu libre et heureux. Vous avez un peu reconnu la trace sur la planète.
Oui, c'est pas tant matériel que affective, je crois que même dans un endroit très 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 bruyant et très où il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de conflits, on arrive comme ça peut-être 3-4 fois par jour ou même une fois par jour, il suffit de trouver ce petit territoire dont on parle et de se sentir comme ça légère et sans racines. Mais je crois que ça peut se trouver un peu n'importe où.
Mais... où est-elle la pudeur ? Elle est dans les mots ou elle est dans les images ?
Elle est dans les mots, plus. Enfin, en ce qui me concerne, oui. Je crois qu'elle est beaucoup plus dans les mots. Les images, non, c'est pas... Elle est dans mes mots, la pudeur. Dans les mots des autres, non. Si je dis les mots des autres, c'est justement que... C'est que j'ai pas de problème de pudeur en disant les mots des autres, et Et alors encore moins dans les images c'est pas du tout, enfin pour moi c'est pas du tout impudique, parler de soi c'est très très impudique, parler avec vous comme ça là, pendant une heure, ça c'est, pour moi c'est, enfin, c'est une forme d'impudeur, faire des films c'est une grande pudeur au contraire, c'est de la pudeur de faire des films.
Il y a un cinéma que vous refusez ?
Oh, il n'y a pas un cinéma que je
refuse. On a parlé beaucoup récemment du cinéma porno. Vous le regardez comment celui-là ? Oh. Je veux dire que moi j'ai été effrayé. J'étais en Angleterre récemment, je suis allé à Sceaux.
Oui.
C'est stupide, ridicule, absurde. Ah bon ? Vraiment. Cinémas qui se suivent à un mètre les uns des autres.
Moi, j'ai pas vu beaucoup de.
C'est même pas drôle.
Non, c'est pas très drôle. C'est très vite ennuyeux.
Ouais. Enfin, jamais vous n'entrerez dans cette catégorie, hein.
Oh, je pense pas, non. Ça, je pense.
Mais
pas,
vous reconnaissez ceux qui font ce métier-là ? Ce sont des comédiens ?
Les comédiens qui tournent dans les films comme ça, je sais pas. Écoutez, vraiment, c'est un.
Ouais, c'est un mauvais sujet.
Non, c'est pas un mauvais sujet. Non, pas du tout. C'est pas du tout un mauvais sujet. Je crois que les films pornographiques, c'est un aveu d'impuissance. C'est notre aveu d'impuissance d'avoir été obligé de classer X comme ça. Oui. Bon, la certaine vision, c'est un miroir qu'on nous tend et dans lequel, finalement, il n'est pas très agréable de se reconnaître. Ce n'est pas uniquement le problème de ce qu'ils font, c'est notre problème à nous tous, je crois.
Isabelle Huppert, je vous crois douée pour vivre, pour être bien, pour attendre que demain soit plus beau. Alors on se demande comment peut être demain lorsque, à 25 ans, 26 ans, on a tourné tant de films, et pas seulement tant de films, parce qu'on peut avoir tourné beaucoup de films, avoir fait beaucoup de choses, avoir écrit beaucoup de romans, mais quand même ce sont des films qui comptent. Dans une vie de comédienne.
Qui ont compté.
Alors
pour
on se
moi,
dit, oui, on se dit, plus tard vais-je tenir la distance,
tenir ce
oui,
rythme.
Ce rythme.
On espère, oui, on espère. Mais on veut pas forcément faire que des films qui compteront autant, justement. Peut-être on veut faire des films un petit peu plus, d'une façon un petit peu plus détachée, jouer la comédie.
Aller au théâtre.
Aller au théâtre.
Ah, vous prendrez le risque d'aller au théâtre.
Ah oui, mais moi, j'ai envie de refaire du théâtre. Bientôt, je vous dirai, dans un an, dans 6 mois, quand j'aurai le temps.
Vous avez déjà un rôle, une pièce ?
Non,
vous pensez à quelque chose ?
Non, j'ai rien de précis pour le moment. Mais non, faire des films qui comptent, peut-être justement, faire des films qui comptent peut-être un peu moins, c'est peut-être intéressant aussi d'aborder les films d'une façon un tout petit peu plus détachée comme ça et légère que la façon dont je l'ai fait jusqu'à présent. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie aussi de jouer des rôles un petit peu plus, de faire des comédies comme on dit, de faire des rôles un peu plus comiques justement. Pour voir comment ça fait.
Et puis je vous crois un peu obligé aussi peut-être à un certain moment d'abandonner pendant une année parce que vous intégrez, vous installez tellement dans vos rôles que le monde disparaît, vous n'appartenez plus qu'à ce que vous faites. Et peut-être que vous êtes justement un peu trop absente, même si vous êtes terriblement présente sur l'écran.
Absente à moi-même ? Oui, peut-être. Mais je vous dis, là, j'ai arrêté pendant 4 ou 5 mois et ça m'a suffi. Peut-être ménager, oui, des plages plus grandes entre chaque rôle. Et aussi, j'aime pas beaucoup décider comme ça pendant trop longtemps.
Non, ça vient tout seul, ça.
Ce que je vais faire. Enfin, il y a des acteurs comme ça qui ont des plannings pendant 2-3 ans, ou même les chanteurs d'opéra comme ça, qui savent déjà qu'ils chanteront à New York en 85. Et,
ah oui, c'est fait pour eux, c'est prêt.
À Vienne en 89. Et ça, ça me terrifie beaucoup. Moi, je veux qu'il m'arrive des choses comme ça par surprise tout le temps. Mais ça, c'est aussi la difficulté. C'est vrai que il y a un certain moment où on est obligé de s'engager, on est obligé de donner des paroles, de signer des contrats. Et quand il y en a trop comme ça en avance, moi ça me fait peur parce que tout est dit et ça ferme un peu la porte aux surprises.
Mais à l'instant je parlais de l'importance d'un rôle parce qu'on se donne à ce rôle et après lorsqu'on le quitte, on est tout seul, on est abandonné, enfin.
Oui, on a été un petit peu seul.
Enfin, si on a vraiment joué, ça.
C'est d'ailleurs pour ça souvent quand on est étonné comme ça que les acteurs tournent trop, mais je crois que c'est une raison justement pour laquelle ils tournent trop, c'est que je crois qu'on a tellement peur de se retrouver dans cet état comme ça quand on quitte un rôle, c'est que dès qu'il y en a un autre comme ça, dès qu'on sait qu'on va tourner un rôle, il y a un autre rôle, il y a une petite machine comme ça qui se met en route, c'est comme un petit ordinateur dans la tête. Et tout de suite, comme ça, on saute d'un rôle à l'autre, et comme ça, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de temps mort.
Enfin, c'est bon quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, de ne rien faire.
Ah, c'est très bon.
De regarder, de vivre, de ne plus avoir d'emploi de temps. Et dans le même temps, on se dit, est-ce qu'on pourra faire cela longtemps? Et puis on se repose des questions, et même vous en posez maintenant, vous dites, bon, quand vais-je commencer mon prochain film?
Oui, mais ça, je me...
Ce sera quoi d'ailleurs le prochain film?
Une question que je ne me pose plus, parce que ça fait déjà un moment que je le sais.
Ouais. C'est, et vous voilà. Donc vous êtes comme les chanteurs, comme les grands musiciens.
Non, parce que je vous dis, non, parce que pendant deux mois, j'ai arrêté, j'ai pas pris de décision. Bon,
c'est bien.
Deux mois, c'est déjà pas mal. Mais on peut pas échapper à ça, je veux dire. Ça devient très difficile, c'est de se dire comme ça qu'on coupe tout pendant six mois, pendant un an, et que c'est très très difficile, je crois. C'est quelque chose c'est pas tellement possible. Enfin, bon, il y en a qui le font, mais c'est assez dur.
Alors, quel est le prochain personnage qui va vraiment vous rendre prisonnière tout à fait pour encore beaucoup de mois?
Le prochain, c'est un film avec Bertrand Tavernier qui s'appelle 1275 armes. Non, enfin ça c'est le nom du roman dont le film est tiré. C'est un roman de Jim Thompson, qui est le même auteur qui a écrit Série Noire, dont Corneau a fait un film. Et là ça s'appelle Coup de torchon, ça c'est le titre provisoire. C'est un film qui se tourne au Sénégal, avec Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle, Eddie Mitchell, Guy Marchand et Stéphane Audran. Et c'est un film très noir comme ça, très 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 violent, très un peu apocalyptique comme ça. Et moi je joue la jeune maîtresse de Noiret, qui est un horrible personnage, qui tue son mari, et qui est, enfin, à la fois horrible comme ça, et très, un peu enfantin, un peu naïf, mais un peu assez comique comme ça, assez violent.
Puis tout se tourne au Sénégal, donc encore.
Tout se tourne au Sénégal.
Le goût du voyage,
dans la
là.
Brousse, oui. Hein, oui.
Puis d'ailleurs, on peut tout voir, on peut tout ressentir, on peut tout exprimer, mais je crois que dans ce métier, on ne peut pas tenter d'expliquer. Hein. C'est difficile. Hein.
C'est très difficile, oui. Puis je crois qu'on peut pas, et on peut pas, et puis on ne veut pas aussi. On ne veut pas expliquer.
Mais puis on remarque chez vous, et cela m'est sensible, une terrible gourmandise.
Ah bon?
Ouais.
Oui, ça, j'aime beaucoup les gâteaux, c'est vrai.
Non, gourmandise de la vie.
Ah oui, mais ça va.
Que me réserve
ça
demain?
Ça va peut-être ensemble. Que me réserve demain? Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand ça va pas, c'est justement les moments où je me dis bon, il se passera plus rien, et puis plus rien ne m'intéresse. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est toujours ce qui me fait continuer. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, vous essayez de savoir ce qui peut se passer, par exemple, en l'an 2000. Vous aurez 45 ans. Ah si, on peut inventer un rôle. Vous imaginez, il y a beaucoup de comédiennes aujourd'hui qui ont 45 ans.
Oui.
Vous les voyez, elles sont toutes jeunes.
Non, mais moi, je ne me demande pas qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois. Je me demande qu'est-ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Dans 6 mois, c'est trop loin. Je vais au jour le jour.
Alors comment expliquez-vous à la fin, c'est-à-dire ce que je vous demandais de ne pas expliquer, que l'on vous aime à ce point du côté du cinéma et que les metteurs en scène n'en finissent pas de vous demander?
Comment expliquer l'inexplicable?
Ouais.
Mais vraiment, je sais pas. Je sais pas.
Puis vos aventures pour le moment sont seulement des films?
Comment?
Vos aventures pour le moment sont seulement des films. Alors peut-être que l'aventure est
bah,
entière
seulement
là,
des films, ça fait beaucoup déjà. Ouais. Parce que si une aventure c'est seulement un film, c'est une immense aventure. Vraiment immense, parce que c'est une aventure avec un rôle, avec des gens, avec un metteur en scène. Ça, c'est une très très grande aventure.
Isabelle Huppert, chacun d'entre nous a sa morale, la vôtre, on peut la raconter avec un seul mot.
Lequel?
Je ne sais pas.
Ah
oh, peut-être non, également pas... pudeur.
Pudeur, oui, pudeur. Non, moi, je n'ai pas de morale, je crois. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, j'ai une... La morale de bien vivre, mais j'ai pas de morale. Enfin, je sais pas, dans la morale, il y a un côté comme ça, rigoureux. Je sais pas, il faut chercher et puis il faut trouver.
Non, il faut trouver et puis il faut chercher.
Oui, il faut trouver, oui, et puis il faut chercher. Non, je sais pas, résumer en un mot, j'aurais du mal. Puis moi, j'ai pas l'esprit de synthèse comme ça. C'est trop difficile, ça, ce genre de questions pour moi.
Dites-le moi en russe.
Bon, alors là, je le saurai encore moins.
Merci Isabelle Huppert, parce que je vois que les minutes tournent à une grande rapidité. Vous vouliez me dire quelque chose encore?
Non, je voulais dire que non. Ma morale, c'est de faire des films, peut-être, quand même. Je disais que j'avais pas l'esprit de synthèse, donc j'ai choisi les images, justement. à la place des mots.
Merci.
Pour dire les choses.
Merci Isabelle Huppert.